Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche dans l'octave de la Nativité du Seigneur. Toujours dans l'ombre de la fête de Noël. Alors, il nous faut demander, bien sûr, à l'enfant Jésus bien des choses. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Il faut venir nous présenter au pied de la crèche. Avec la Sainte Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec les anges, avec les bergers, avec les rois mages qui vont bientôt arriver, et demander les grâces dont nous avons besoin pour être libérés de l'esclavage du monde, de l'esclavage du péché. Rappelez-vous l'oraison de Noël. Faites, ô Dieu Tout-Puissant, que la nouvelle naissance de votre Fils unique dans la chair nous délivre, nous que l'antique esclavage retient encore captif sous le joug du péché. Il faut demander d'être libéré en ce temps de Noël, c'est un temps de libération, un temps de Noël. Le temps où les chaînes tombent, les chaînes du péché, les chaînes par lesquelles le démon nous tient unis à lui, unis au monde. Être libéré de l'esclavage du péché, pour que, étant libéré de l'esclavage du péché, ayant perdu cette chaîne qui nous tient liée au démon, nous puissions construire une autre chaîne, cette fois-ci construite avec liberté, qui nous unit à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et si nous te faisons tomber la chaîne du démon, eh bien à ce moment-là, nous pourrons adorer en toute liberté notre Seigneur Jésus-Christ et devenir ses enfants par adoption. C'est ce que nous explique l'épître d'aujourd'hui, l'épître de Saint Paul aux Galates. Ainsi, nous-mêmes, dit Saint Paul, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque fut venue la plénitude des temps, c'est-à-dire maintenant la fête de Noël, Dieu a envoyé son Fils, formé d'une femme, assujetti à la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi et nous donner de recevoir l'adoption des fils. Donc nous sommes devenus des fils adoptés du Christ, fils adoptifs du Christ. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, nul n'est plus esclave, mais fils, et s'il est fils, il est aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous devenons par la fête de Noël non seulement fils de Dieu, enfant de Dieu, par le baptême bien sûr, mais aussi par cette fête de Noël, nous devenons enfants de Dieu. Et devenant enfants de Dieu, nous devenons héritiers du bon Dieu. Héritier du bon Dieu par la grâce du bon Dieu. Héritier du bon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bon Dieu met dans notre poche, aujourd'hui, nous offre comme cadeau de Noël la clé du paradis. À nous de ne pas la perdre. Cette clé du paradis, il faut la mettre dans notre poche et bien la serrer dans notre poche pour être sûr qu'elle ne tombe pas. Et la clé du paradis nous permettra justement un jour, après notre mort, si nous avons la grâce de mourir en état de grâce, ça nous permettra d'aller au paradis. Nous deviendrons vraiment des enfants du bon Dieu. Donc nous sommes des héritiers du ciel, nous sommes des êtres d'éternité, mes bien chers frères. La fête de Noël nous rappelle ces choses-là. Dieu Tout-Puissant Éternel, nous dit l'évangile de ce dimanche dans l'octave, dirigez nos actions selon votre bon plaisir, afin qu'au nom de votre Fils bien-aimé, nous puissions abonder en bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres que le bon Dieu nous demande? La première bonne œuvre que le bon Dieu nous demande, la plus importante de toutes, c'est d'abord de vivre en état de grâce. Si je m'occupe des voisins, mais je ne suis pas capable de m'occuper de moi-même, ça ne va plus. Imaginez un père de famille qui s'occupe du voisin, des enfants du voisin, qui laisse ses enfants en abandon, mourir de faim. Commençons par nous occuper de notre âme, puis des âmes de ceux dont nous avons la charge. Notre épouse, notre époux, nos enfants. Alors il y a une deuxième chose qu'il nous faut comprendre, et cette deuxième chose est bien expliquée dans l'évangile du jour. L'évangile du jour est certainement un des évangiles les plus importants. Le thème de l'évangile est un des plus importants. Ça résume en quelque sorte toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est présenté au temple de Jérusalem, cet évangile va revenir plusieurs fois dans cette période de Noël, puis cette période après l'Épiphanie qui arrive en début d'année prochaine. Donc, il y avait là, au temple, donc le vieillard Siméon qui attendait. Le Seigneur lui avait promis qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir tenu dans ses bras l'enfant Jésus, le Messie, le Sauveur du monde. Il y avait aussi une autre femme, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, âgée de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas, elle non plus, du temple, servant Dieu jour et nuit dans les jeûnes et les prières. Elle aussi était survenue à cette même heure, elle louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. Donc ces deux grands saints, donc Siméon et Anne, attendent l'arrivée du Messie. Ils savent qu'il va arriver, qu'il va venir au temple, il va venir dans son temple. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ arrive, porté dans les bras de sa mère, accompagné de Saint Joseph, son époux, le Saint-Esprit va avertir Siméon, lui dire, voilà, c'est lui, cet enfant nouveau-né, là, enveloppé de l'ange dans les bras de sa mère, cet enfant, eh bien, c'est la très sainte, c'est l'enfant, cet enfant, la très sainte Vierge Marie, c'est le Fils de Dieu. C'est notre Seigneur, notre Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, demandons au bon Dieu de comprendre ce que va nous dire ce vieillard Siméon, parce que cette prophétie de Siméon à la Mère de Dieu n'est pas simplement une prophétie concernant la très sainte Vierge Marie et l'enfant Jésus, mais une prophétie qui nous concerne tous. En ce temps-là, Joseph et Marie, mère de Jésus, étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Et Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici que cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, et comme un signe qui excitera la contradiction. Et vous-même, un glaive vous percera l'âme afin qu'on ait pensé des cœurs nombreux soient dévoilés. Donc trois faits importants. Cet enfant est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël, premier fait. Deuxième partie de la prophétie, il sera un signe de contradiction. Troisième partie de la prophétie adressée à la très sainte Vierge Marie, un glaive de douleur vous transpercera l'âme pour que les pensées de cœur, des cœurs nombreux soient dévoilées. Comme il nous faut, mes bien chers frères, méditer comme c'est important que nous comprenions justement cette prophétie de Siméon qui n'est pas facile à comprendre. Parce que on a en quelque sorte une espèce de répulsion contre cette prophétie. Quand on a dit que l'enfant Jésus va être un signe de contradiction, on ne veut pas de cette contradiction. Parce qu'on sent, de façon générale, on sent que si notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction, moi qui suis son enfant, il va falloir que moi aussi je sois un signe de contradiction. Quand Siméon nous dit que cet enfant est établi pour la ruine de beaucoup en Israël, ça nous fait peur. On a peur, nous aussi, d'être ruinés à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand Siméon nous dit que l'âme de la très sainte Vierge Marie va être percée par un glaive, on a peur que ce glaive perce aussi notre propre cœur. Alors si notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction, si notre Seigneur Jésus-Christ est donné au monde pour la ruine ou pour la résurrection de beaucoup en Israël, eh bien, posons-nous la question. Et pour moi, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ sera un signe de résurrection, ou au contraire un signe de malédiction, un signe de ruine? Je vais essayer de vous expliquer cette prophétie. J'ai déjà expliqué souvent, mais si nous ne la comprenons, on comprend beaucoup de choses, mes bien chers frères. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est établi pour la ruine et pour la résurrection d'un grand nombre en Israël? C'est pour bien nous faire comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ, devant notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tous obligés de faire un choix, ou pour lui ou contre lui. Si nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours, si nous acceptons par sa grâce de rester dans son amitié, à ce moment-là, il deviendra pour nous un signe de résurrection. Résurrection, ça veut dire monter vers le ciel. Et je pourrai, à sa suite, un jour régner avec lui au ciel. Mais si au contraire, je refuse notre Seigneur Jésus-Christ parce que je refuse de me convertir, alors notre Seigneur Jésus-Christ va devenir pour moi un signe de ruine. La ruine, ça veut dire la catastrophe, ça veut dire la descente vers le bas, vers l'enfer. Donc, ou notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de résurrection pour moi, et notre Seigneur Jésus-Christ deviendra mon roi, mon rédempteur. Ou notre Seigneur Jésus-Christ est refusé par moi, et je serai obligé de suivre à ce moment-là, pour ma ruine, un autre roi, à savoir le démon. Ou je suis l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, ou je suis l'esprit de ce monde moderne. C'est ou ou la pauvreté, la chasteté, l'obéissance de notre Seigneur à la crèche, ou c'est la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair et l'orgueil du monde moderne, avec les trois mots sacrés de la République moderne, liberté, égalité, fraternité. Il faut faire un choix, mes bien chers frères. Alors pour moi, que va être notre Seigneur? Que va devenir notre Seigneur Jésus-Christ pour moi? Est-ce qu'il va être pour moi quelqu'un qui va m'aider à monter, ou au contraire, parce que je vais le rejeter, quelqu'un qui va me pousser vers le bas, ou permettre que je sois poussé vers le bas plus exactement? La deuxième partie de cette prophétie est aussi très importante. Il sera comme un signe de contradiction, un signe qui excitera la contradiction. Alors posons-nous aussi la même question pour nous. Est-ce que je suis un signe de contradiction de par le monde? Le monde est l'ennemi de Dieu. Donc si notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction dans le monde, il faut que moi je sois aussi un signe de contradiction. Je ne suis pas un signe de contradiction dans le monde moderne. Pas ma façon de vivre, ma façon de parler, ma façon de procéder en toutes choses. Si je ne suis pas en contradiction avec le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais partie du monde. Le monde aime celui qui est comme lui. Le monde déteste celui qui est contre lui. Notre Seigneur Jésus-Christ aime celui qui est comme lui, mais il déteste celui qui est contre lui. Rappelez-vous ce qu'avait dit Saint Rémy à Clovis le jour de son baptême, la nuit de Noël de 496. Courbe la tête, fière sycambre, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Ça montre bien justement ce signe de contradiction. Et il faut bien comprendre, je me répète, j'ai déjà expliqué ces choses souvent, mais je me permets de revenir là-dessus parce que c'est quelque chose de tellement important pour nous de bien comprendre ces choses-là. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ doit-il être un signe de contradiction? Mais notre Seigneur Jésus-Christ doit être un signe de contradiction pour nous parce qu'il est l'unique véritable Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit qu'il était un des dieux de l'Olympe. Non, pas du tout. Il est l'unique vrai Dieu. En dehors de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Les autres dieux, les dieux des païens, sont tous des démons, comme nous dit le prophète David. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction parce que, justement, non pas parce qu'il a dit qu'il était Dieu, parce que le monde s'en fiche complètement, vous savez. Il y a des gens qui prétendent être Dieu aujourd'hui. Et parce qu'il est l'unique vrai Dieu. Quand il dit qu'il est l'unique vrai Dieu, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'est pas avec moi est disperse. Quand il dit « Je suis l'unique vrai Dieu », il condamne tous les autres faux dieux. Alors, ne soyez pas aussi étonnés si, évidemment, en conséquence de ce que je viens de vous expliquer, l'Église catholique c'est la même chose, l'Église catholique aussi doit être et sera un signe de contradiction. Les Églises, il y en a des centaines dans le monde. Quelle est la vraie? Celle qui est une sainte catholique et apostolique. Celle qui est une sainte catholique et apostolique. Eh bien, cette Église catholique est aussi un signe de contradiction devant les autres Églises. Il faut qu'il y ait une contradiction totale entre l'enseignement de l'Église catholique, la véritable Église du Christ, et l'enseignement des fausses Églises. Alors pourquoi l'Église catholique est-elle un signe de contradiction? Non pas, contrairement à ce que nous disent beaucoup de gens, non pas simplement parce qu'elle est divine. Parce qu'il y a des tas d'églises qui se présentent divines, les musulmans prétendent que leur église est divine. Hein. Les protestants prétendent que l'église de Martin Luther est divine aussi. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné dans son catéchisme, hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. Pas de salut en dehors de l'église catholique, parce qu'il n'y a qu'une seule église, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule église divine. Les autres sont des églises humaines qui ne peuvent pas sauver. Les églises humaines, elles peuvent amener en enfer, mais elles ne peuvent pas amener au ciel. Puisqu'il faut prendre le chemin donné par notre Seigneur Jésus-Christ pour aller au ciel. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. C'est pour cela, c'est parce que l'Église catholique enseigne qu'il ne peut y avoir de salut en dehors de cette Église catholique, une sainte catholique et apostolique, et persécutée. C'est parce que l'Église enseigne cela qu'elle est persécutée. Et s'il était par persécutée, ce serait le signe certain qu'elle ne serait pas de Dieu. Alors, mes bien chers frères, si notre Seigneur Jésus-Christ est un signe de contradiction, si son Église est un signe de contradiction, ne soyez pas étonnés si vous et moi, nous sommes aussi des signes de contradiction. Et si nous ne sommes pas des signes de contradiction, Eh bien, ça veut dire que nous sommes des amis du monde. Est-ce que les gens vous traitent de fou tout le temps, les gens du monde? Est-ce que les gens du monde se moquent de vous à cause de votre façon d'élever vos enfants, à cause de votre comportement professionnel, à cause de votre comportement en famille, à cause de la façon de vous habiller, à cause des sacrifices que vous faites pour mettre vos enfants dans de bonnes écoles, à cause des kilomètres que vous faites pour assister à la messe traditionnelle le dimanche? Est-ce que les gens se moquent de vous à longueur de journée? Oui, alors c'est un bon signe. Mais si au contraire les gens du monde vous admirent, vous encensent et vous adorent d'une certaine façon, alors soyez certains que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Est-ce que nous sommes critiqués par le monde? Quand nous sommes critiqués par le monde, nous sommes aimés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il adorera le premier et aimera le second. Ou il aimera le premier et adorera le second. Ou il aimera le premier et haïra le second. Donc, ou notre Seigneur Jésus-Christ est roi de notre âme, ou il ne l'est pas. Et s'il ne l'est pas, c'est le démon qui prend la place. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Rappelez-vous ces paroles tellement importantes de notre Seigneur. On ne peut pas aimer Dieu et le monde, c'est impossible, parce que le monde est ennemi de Dieu. Ce que nous disons dans la liturgie, pendant la vigile pascale. Et la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans la crèche de Bethléem le montre aussi très bien. Qui vient pour adorer notre Seigneur? Les anges, bien sûr, les bergers, les rois mages, mais les autorités politiques qui avaient été invitées, les autorités religieuses qui avaient aussi été invitées à la crèche. Est-ce qu'elles sont venues? Non, les scribes, les pharisiens, le roi Hérode, ils viennent pas. Pourtant, ils ont vu les rois mages venir, ils ont entendu ce que disaient les rois mages sur le roi des rois. Ils savaient que ce roi des rois allait naître là où allait l'étoile. Ils auraient pu se renseigner, ils savaient très bien que selon les prophéties, l'enfant Jésus, le Messie, devait naître dans cette ville de Bethléem. Vont-ils prendre eux aussi l'or, l'encens et la myrrhe pour venir adorer par l'or le roi, par la myrrhe l'enfant, l'homme et par l'encens le vrai Dieu? Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à le tuer. Hérode envoie ses soldats pour tuer tous les enfants qui ont moins de 2 ans, pour essayer de détruire notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il n'y a pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Alors, mes bien chers frères, utilisons cette fête de Noël pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir prendre de plus en plus de place dans mon âme. Et ne soyons pas déçus et je dirais curés parce que nous sommes des signes de contradiction. Les gens vont tous se moquer de vous. Le monde moderne, par exemple, ne veulent plus d'enfants. Avant, c'était 1 ou 2 enfants, maintenant, c'est plus du tout. Parce qu'il faut protéger les congés payés. Vous comprenez, c'est tellement plus important que d'avoir des enfants. Alors, imaginez une famille nombreuse dans le monde moderne qui a 7 ou 8 enfants. Tout le monde va les traiter pour des fous, les prendre pour des fous. C'est là où il faut se rappeler la troisième partie de la prophétie de Siméon, s'adressant à notre Sainte Vierge Marie, mais aussi s'adressant à chacun d'entre nous. Un glaive de douleur vous transpercera l'âme pour que les pensées de cœurs nombreux soient dévoilées. Alors, si notre Sainte Vierge Marie a un cœur transpercé, elle est Notre-Dame de cette douleur au pied de la croix, soyez pas étonnés si vous et moi, nous allons aussi avoir un cœur transpercé. Transpercé par quoi? Par quoi? Qu'est-ce qui va être transpercé? Notre volonté propre va être transpercée. Elle est transpercée parce que par les critiques, par les calomnies, par les médisances, par les détractions, par les jugements téméraires contre nous, le monde nous déteste comme il a détesté notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde veut nous crucifier comme il a crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Il suffit d'entendre ce qui se dit aujourd'hui contre les catholiques. Alors mes bien chers frères, ne nous décourageons pas. En ce temps de Noël, le temps de Noël, c'est le temps de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Et c'est le temps où notre Seigneur Jésus-Christ veut d'une façon toute spéciale venir dans mon cœur. Il vient dans mon cœur pour me délivrer justement de cet antique esclavage qui me retient encore captif sous le joug du péché, sous le joug du démon. Alors notre Seigneur Jésus-Marie, elle a accepté d'avoir un cœur percé. Demandons-lui la force, les grâces, pour que nous aussi nous puissions accepter d'avoir nos cœurs percés par les persécutions, percés par les difficultés, percés par la pauvreté, percés par l'indignation du monde moderne contre nous. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, Notre Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu. Cet enfant enveloppé de l'ange qui vagit dans la crèche de Bethléem, cet enfant nouveau-né, mes bien chers frères, c'est le Fils de Dieu. C'est le Créateur du ciel et de la terre. C'est le Sauveur du monde. Et c'est lui qui nous attend au ciel pour que nous puissions justement un jour tous nous retrouver là-haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.